Merci beaucoup, François, et merci à chacun. Merci pour ceux que nous avons pu saluer avant, pour votre accueil et pour la joie que de nous retrouver ici. Je pense que la première fois que je suis venu à l'église de ton nom, c'était pour l'ouverture de l'église, vers mars-avril 2003. Je ne me souviens pas exactement de la date, mais ça remonte pour certains. Je venais de prendre la retraite de notre ministère. Nous sommes arrivés en France il y a 53 ans maintenant et nous avons pris la nationalité française, à la différence de beaucoup d'entre vous. C'était un choix motivé et non pas un accident de naissance. Donc, nous avons voulu prendre la nationalité et nous désirons rester servir le Seigneur aussi longtemps que possible. Les années commencent à compter, mais le Seigneur donne force et, j'espère, sagesse et la possibilité de voyager toujours. Et nous sommes heureux d'être avec vous encore cette année. Malheureusement, ce n'était pas possible l'année dernière. Et j'espère que quand vous aurez un pasteur à vous, plein temps et tout, que les invitations ne vont pas s'arrêter. Donc, nous avons toujours un accueil tellement sympathique et joyeux ici avec vous. Merci François aussi de nous avoir rappelé tant de choses dans cette présidence. Qui est notre Dieu? C'est absolument nécessaire au plus haut degré. Pour vraiment vivre la vie chrétienne, c'est de connaître Dieu. Et puis, tant de chrétiens ne le connaissent pas vraiment si bien que cela, où on a des idées un peu fausses, un peu pas tout à fait bibliques sur la personne de Dieu. Ce matin, je voudrais attirer notre attention sur un passage où Jésus donne un enseignement dans Luc chapitre 6. C'est un long chapitre, il y a beaucoup d'enseignements dans ce passage, mais je vais me limiter aux versets 17 à 26 que nous allons lire tout à l'heure. Mais pour l'instant, j'aimerais juste que nous puissions réfléchir sur qui est Dieu pour chacun de nous. Qu'est-ce qu'il est pour nous? Ce dernier chant, je ne sais pas, j'oublie le titre et je ne sais pas où ça se trouve dans J'aime, c'est dans J'aime? Je souhaite que l'un des musiciens me donne les coordonnées de ce chant. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est absolument bourré de théologie, d'enseignement biblique, ce chant. Et on devrait l'apprendre par cœur. Je ne l'ai pas fait, mais ça vaut le coup. Parce que c'est un beau chant, un petit peu, ça a un air un peu celtique peut-être, mais les paroles sont absolument incroyables et qui correspondent tout à fait au développement de la présidence que François avait préparé pour nous. Je vous invite à nous incliner dans la prière. Notre Père Céleste, nous sommes des privilégiés parce que nous pouvons venir en toute liberté ce matin pour célébrer un culte à l'honneur de ton nom et à Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Nous sommes là devant toi dans la facilité, car il n'y a personne qui nous arrête, peut-être quelqu'un dans notre famille qui n'aime pas trop ça, mais il n'y a pas d'autorité qui va venir nous dire « arrêtez, c'est interdit ». Nous sommes heureux de venir aussi parce que nous avons besoin de te louer ensemble, de t'adorer, de te dire que nous t'aimons et d'écouter ce que tu as à nous dire. Et déjà, tu nous as beaucoup dit par la première partie de ce culte. Tu nous as beaucoup dit aussi par le rappel du sacrifice de ton fils Jésus, sa mort sur la croix, son corps brisé, son sang versé pour nous donner la vie à chacun et chacune qui acceptera Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et puis, Seigneur, maintenant, nous sommes devant ta parole. Je prie que tu m'aides. Tu connais mes faiblesses, mes besoins ce matin. Tu connais la situation de chacun. Et je te remercie parce que le Saint-Esprit est là et c'est lui qui va justement interpréter cette parole-là pour que chacun puisse recevoir ce dont il a besoin selon sa propre situation. Je te remercie d'avance, Seigneur. Je compte sur toi. Je dépends de toi entièrement pour l'annonce de ce message ce matin. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Lirons donc Luc 6, 17 à 26 dans quelques instants. Mais d'abord, j'aimerais simplement mentionner que je me rappelle d'avoir reçu, j'ai dû garder ça quelque part dans mes archives, tellement c'était flagrant. J'ai reçu de Canal Plus une pub. Une pub qui me promettait le bonheur garanti et absolu en m'abonnant à Canal Plus. Imaginez-vous, par quelques francs, ça dépend, je suppose, que de votre abonnement. Je ne sais pas, je ne suis jamais abonné à Canal Plus, ça ne m'intéresse pas trop. Mais enfin, pour certains, ça pourrait vous intéresser, mais Canal Plus va vous rendre heureux. Vous ne pouvez pas vivre sans Canal Plus. Cette pub est symptomatique de notre époque. Beaucoup sont à la recherche de quelque chose pour combler un certain vide dans leur vie, ou je devrais dire un vide certain dans leur vie. Il y en a qui cherchent à combler ce vide par le travail. Il y a des, comment dirais-je, personnes qui sont adonnées à leur travail comme certains sont adonnés à d'autres choses. Il y en a qui cherchent à être comblés par la détente, par la distraction et surtout par l'évasion. La vie est tellement pénible pour certains qu'il faut s'évader dans un autre monde presque, un monde irréel, passé par la fameuse armoire dans le livre de Narnia, pour être ailleurs et s'échapper à cette vie tellement pénible. Je ne suis pas contre des activités, je ne suis pas contre Canal Plus de même, je ne suis pas contre tout un tas de choses qui pourraient nous aider à nous développer, à développer notre personne. Pour les garçons, paraît-il, c'est les camions, pour les filles, les poupées, je ne sais pas, c'est ce que j'ai chanté tout à l'heure. Je trouve que c'est un peu sexiste, hein, ce chant, mais je ne sais pas. Mais, et si la fille veut jouer avec le camion, au camion, et le garçon à la poupée, bon, mais c'est pas interdit, donc je ne sais pas. Bon, je plaisante, excusez-moi. Donc, je ne pouvais pas résister ça, c'est une réflexion qui m'est venue pendant le chant de ce joli chant. Ce qui est important, c'est la modération dans toutes ces choses. C'est la modération. Ne pas se donner à fond et surtout ne pas chercher la réalité dans une évasion qui est irréelle. Oui, certains espèrent trouver l'évasion à travers les émissions de télé. Je connais des gens qui laissent marcher la télé toute la journée. Je trouve que c'est gaspiller un peu l'électricité aussi bien que user l'appareil. Bon, comme vous voulez, hein. D'autres trouvent l'évasion dans les romans irréalistes de type Harlequin, par exemple. Où, j'ai jamais lu un livre Harlequin, donc je ne sais pas trop ce que c'est. J'ai feuilleté juste les 3-4 dernières pages une fois, juste pour savoir ce que c'était. Ah bon, mais enfin, ça se termine toujours de la même manière, hein, de toute façon. Hein. Ou il y en a d'autres qui cherchent à s'évader dans les films ou qui nous font rêver du prince charmant ou de la fille craquante qui fait palpiter le cœur. Bon, d'accord, je ne suis pas contre cela. J'aime bien de temps en temps regarder un film où il y a une fille craquante qui me fait palpiter le cœur parce que ça me rappelle la grâce de Dieu qui m'a donné la fille la plus palpitante. plus craquant, qui fait palpiter toujours mon cœur. Mais enfin, bon, voilà, ça c'est autre chose. D'autres encore jouent au loto, au tiercé, à d'autres jeux pour des gains qui ne se réaliseront jamais. Et puis, il y a les inévitables jeux vidéo qui sont intéressants et parfois même éducatifs, je l'avoue, mais très accrocheurs et qui ont besoin d'être maîtrisés. Nous avons 5 petits-enfants et les parents doivent drôlement veiller sur l'utilisation de l'écran de leurs enfants. Ils ont entre 16 et 19 ans maintenant. Donc, c'est pas toujours évident. Je ne parle même pas du smartphone et des sites sociaux et leurs nombreux pièges. Joyce m'a interdit de faire partie de Facebook parce qu'elle savait que déjà, passant beaucoup de temps devant l'écran, pas forcément pour surfer, mais pour travailler, elle ne me verrait jamais plus si j'avais une centaine ou 200 amis sur Facebook avec qui je correspondais ou dont je me tenais au courant de leur vie et tout. Et elle souhaitait quand même que je passe un peu de temps avec elle, ce qui est le cas. Bon. Les pièges. Les pièges à droite et à gauche. Mais surtout pour nous évader dans un monde qui n'est pas réel. C'est tellement triste lorsqu'on espère combler le vide de sa vie et trouver le bonheur dans l'évasion. Surtout s'évader dans un monde qui n'existe même pas. Et tout ceci n'est pas nouveau. Du temps de Jésus, les gens étaient également à la recherche de quelque chose, une réponse à leurs besoins, une aide quelconque pour oublier ou pour sortir d'une situation difficile dans laquelle ils vivaient. Ils sont venus avec Jésus avec des besoins légitimes. Et nous verrons ça en lisant les versets 17 à 19. Leurs besoins étaient légitimes. La guérison d'une maladie ou d'un handicap quelconque. La délivrance d'un esprit impur. Et certains pour la réponse aux grandes questions de la vie. Et Jésus a guéri. Jésus a chassé les esprits. Il a donné des réponses valables. Mais Jésus savait qu'il fallait plus que cela. Ce n'était pas suffisant pour que ce monde, tout ce monde-là, vive dans la plénitude et le bonheur. Et face aux besoins écrasants de la multitude, Jésus a répondu en donnant plusieurs pistes pour mener une vie heureuse, des pistes pour mener une vie vraiment heureuse, une vie de sainteté, de joie, d'épanouissement et de plénitude avec Dieu. Il nous donne dans ce chapitre 6 quatre ou cinq pistes pour trouver la plénitude et une vie heureuse. Ce matin, nous allons examiner la première de ces pistes qui se trouve dans Luc 6. Et cette piste est celle que j'appelle le contentement spirituel. Le contentement spirituel. Je vous invite à me suivre dans la lecture de Luc 6, 17 à 26. Jésus descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une grande foule et ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem, du littoral de Tyr et de Sidon, c'est-à-dire qu'ils sont venus d'un peu partout. C'est une vaste région. Nous allons trouver le passage parallèle dans Matthieu 5, où Jésus donne le sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6 et 7, y compris les béatitudes que nous trouvons sous une autre forme dans ce passage. Et tout ce monde est venu pour l'entendre et pour être guéri de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris. Alors, Jésus a fait plus que cela. Il a vraiment enseigné. Bon, ils sont venus pour entendre, mais je ne suis pas sûr que cette foule s'attendait à ce que Jésus parle ainsi. Jésus leva les yeux sur ses disciples et dit, « Heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Ah, ça va jusque-là. « Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. » C'est prometteur. « Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. » Quelle grâce de savoir que ça va être le cas un jour. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et rejetteront votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme, à cause de moi. Ils vont dire cela et faire cela. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez de joie parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leur père agissait à l'égard des prophètes. Et puis Jésus change de ton. Et là, ça commence à coincer un petit peu. Mais malheur à vous, les riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés maintenant, que vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes parleront bien de vous, car c'est ainsi que leur père agissait à l'égard des faux prophètes. Le contentement spirituel. Curieux passage, ces versets 20 à 26 que nous venons de lire. Nous trouvons ici une de ces, ce que j'appelle une opposition hébraïque. Alors, ne soyez pas effrayés par ce terme. Ça veut dire tout simplement que les Juifs avaient l'habitude de juxtaposer une chose et son contraire, si je peux le dire comme cela, pour apprendre quelque chose. Et cet enseignement avait plus de force à cause de cette opposition. Et nous avons un excellent exemple ici. C'est une façon hébraïque de parler et d'enseigner. Alors, cette opposition hébraïque ici, c'est que les Juifs croyaient, et ils croient toujours, que ceux qui sont bénis dans cette vie recevront le mal dans la vie à venir, et vice-versa. J'ai entendu un enseignant juif le dire une fois. C'est ça la théologie juive classique. Bon, il y en a qui ont peut-être écarté cet enseignement, mais voilà. Si on est heureux maintenant, on sera malheureux dans l'avenir. Si on souffre maintenant, il y aura la bénédiction dans la vie à venir. C'est ce que nous trouvons dans l'histoire de l'homme riche et Lazare, que Jésus lui-même a dit dans Luc 16, verset 25. Vous n'avez pas besoin de regarder, mais je vais le lire. Quand Lazare est allé vers Abraham, son père, et le riche est allé donc dans le lieu de tourment, Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que de même Lazare a eu les maux. Maintenant, lui, il est ici consolé, et toi, tu souffres. » C'est cette opposition hébraïque. Alors, rassurez-vous, on va quand même atténuer un petit peu la force de ces paroles, donc ne paniquez pas encore. Donc, Jésus parle à une foule qui souffre. Elle souffre sous le joug romain déjà, c'est-à-dire l'occupation par l'ennemi, que les Français ont connu pendant la Deuxième Guerre. Elle souffre de la pauvreté, de l'exploitation et de toutes sortes de misères. Et Jésus parle à tout le monde pour leur donner de l'espoir. C'est le sens de ce passage. Jésus veut donner de l'espoir et donner une piste pour une vie épanouie et heureuse. Il emploie cette opposition hébraïque si bien connue pour les aider à comprendre des vérités spirituelles importantes. D'abord, précisons ce que le contentement spirituel n'est pas. Ce n'est pas étonnant de trouver que le vrai contentement est précisément l'inverse de ce que le monde dit et à l'opposé de la sagesse humaine ambiante. Alors, je vais inverser donc les versets ici. Je vais d'abord aborder les versets 24 à 26 et ensuite revenir sur la première partie du passage. Nous trouvons que le contentement spirituel, ce que le contentement spirituel n'est pas au verset 24 à 26. Pourquoi ces choses sont-elles opposées à l'opposé du contentement spirituel? Parce que les choses dont Jésus parle dans ces versets pourraient être un danger, un vrai danger pour notre bien-être spirituel. Pourraient. Je ne dis pas que c'est obligé. Mais d'abord, par exemple, il parle au verset 24 de la richesse spirituelle. « Malheur à vous les riches, car vous avez votre consolation. » Aïe, je ne sais pas si vous êtes riche ce matin. Je ne sais pas quel est l'état de votre portefeuille, de votre compte en banque. Il y a des riches. J'ai connu des riches qui étaient chrétiens. Malheur à vous les riches. Je n'ai pas vu que ces gens étaient particulièrement maudits par Dieu. Je me presse de dire que Dieu n'est pas contre la richesse. Voilà. Vous pouvez dire un ouf de soulagement. Donc, mais l'implication est que être riche nous donne un faux sentiment de sécurité au dépens d'une profondeur spirituelle. Un homme est vraiment pauvre s'il ne possède que la richesse matérielle de cette vie. C'est le vide intérieur. Dans Luc 12, 15, Jésus dit, « Même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. La richesse matérielle peut donner une fausse sécurité, et cela pourrait être éternellement fatal. » Je lisais ce matin dans les Proverbes, et j'ai trouvé un passage intéressant que j'ai déjà lu, mais que je n'ai jamais appliqué à cette parabole, Proverbes 23, versets 4 et 5. « Ne te fatigue pas pour t'enrichir. Cesse d'y appliquer ton intelligence. Tes yeux volent-ils vers la richesse? Il n'y a plus rien, car elle se fait des aigles, et comme l'aigle, elle s'envole vers le ciel. » Beaucoup de gens ont trouvé la vérité de cela en 1929, quand le fameux crash a eu lieu. Et depuis, il y a eu des crashs un peu moins importants, mais des gens ont perdu beaucoup d'argent. Ben, moi, je ne comprends pas ça. Bon, ben, j'ai pas des milliards comme certains, mais il paraît que, je ne sais pas quelle compagnie, avec l'embargo que Trump, non pas l'embargo, mais les tarifs, donc taxes que Trump a imposées sur l'importation de certaines choses, a fait perdre des milliards à certaines personnes. Ça me dépasse, enfin. Mais c'est simplement pour dire que, oui, ça peut prendre des ailes comme une aigle et s'envoler. Donc, ne comptez pas sur ces choses, dit Jésus. Un homme est vraiment pauvre s'il ne possède que la richesse matérielle. Le contentement spirituel n'est pas non plus au verset 25, n'est pas non plus la nourriture ou l'absence de la faim, ou par extension être rassasié sur le plan matériel. Malheur à vous qui êtes rassasiés maintenant, rassasiés physiquement ou matériellement, car vous aurez faim, vous serez dans le besoin. On peut avoir une abondance de vivres et de biens tout en étant dans la disette moralement et spirituellement et connaître un vide intérieur terrible. Ça a rappelé il y a quelques jours seulement que nous avons eu l'occasion, une seule fois de notre vie, d'aller à Cannes. Bon, j'avoue que ce n'est pas exactement le type de ville qui nous attire, mais on faisait du camping dans le midi, et quelqu'un avait gardé nos enfants qui étaient en bas âge, et nous sommes allés juste sur la promenade pour voir ce que c'était le soir. Et il y avait des gens là qui étaient aisés, riches, bien habillés. une tenue formidable, chair, costume, robe, etc. Et on a regardé les gens et ce qu'ils faisaient. Et vous savez ce qu'ils faisaient? Ils se promenaient et ils se regardaient les uns les autres pour voir qui était le mieux habillé. Et on voyait sur le visage un vide. Parce que tout ce qui comptait pour ces gens, c'était la richesse matérielle. C'était l'absence de la faim sur le plan matériel. Et cette image qui a dû se passer, il y a 45 ans maintenant, Elisabeth avait 2 ans, oui, ça ne m'a jamais quitté. Et je dis, oh là là, c'est malheureux ces gens, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la véritable richesse et le contentement. Non, la richesse matérielle ne peut jamais combler. On a demandé une fois à un riche, je ne sais pas, espèce de Rockefeller ou Rothschild, je ne sais pas qui, je ne me souviens pas exactement. Et on lui a dit, combien d'argent faut-il pour être heureux? Et quelle était la réponse? Savez-vous? Combien d'argent faut-il pour être heureux? Il a dit un peu plus. Voilà. Sans le savoir, il citait Jésus dans Luc chapitre 6. Parce qu'on n'est jamais comblé par cela. La richesse matérielle ou l'absence de la disette rassasiée sur le plan matériel. Au verset 25, il parle d'autre chose. Oh là là, là ça m'interpelle. Hein? Malheur à vous qui riez maintenant. Oh là là, moi qui aime rire. Et raconter des blagues, enfin, même si ces blagues ne sont pas appréciées par mes petits-enfants parce qu'ils trouvent que c'est... Oh, encore, oh, grand-pa, arrête, non, bon. Non, mais j'aime rire. Quand vous serez dans le deuil et dans les larmes, mais qu'est-ce que c'est que ce rire? Moi qui aime rire. Moi, j'appelle ça le rire superficiel, ou le rire aux dépens des autres, ou le rire qui cache le fait que sa vie est vide de sens. Le rire qui aveugle et empêche de voir sa condition spirituelle. Et c'est vrai, il y a des gens qui rient, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Moi, quand je ris, c'est parce que j'ai une bonne raison de rire. On n'a jamais dit que Jésus a ri. Mais je comprends pas comment Jésus ait pu voyager avec ses 12 pendant 3 ans et demi, et ne pas rire de temps en temps, tellement il devait être un peu à côté de la plaque. Bon, enfin, mais ça c'est le bon rire. Et finalement, le contentement spirituel, c'est n'est pas recevoir la louange des hommes. Malheur lorsque tous les hommes parleront bien de vous, car c'est ainsi que leur père agissait à l'égard des faux prophètes. Ça veut dire que pour pas que les gens disent du bien de nous, chrétiens. Attention, Jésus n'est pas contre l'appréciation du bon témoignage du chrétien. Au contraire, il ne s'agit pas de cela ici. La louange ici implique souvent un compromis de ses principes ou l'implication dans une situation louche ou des gens qui vont caresser quelqu'un dans le sens du poil pour recevoir quelque chose. Nous connaissons tous des gens comme ça, qui ont besoin d'être flattés, qui ont besoin d'être mis en valeur, qui ont besoin qu'on dise de bonnes choses sur eux, qu'on les monte en épingle, etc. Donc, Jésus a dit non, si c'est ça que vous voulez, malheur à vous, parce que ils ont fait ça pour les faux prophètes, et vous n'êtes pas mieux qu'eux. Donc, la richesse matérielle, le rassasiement sur le plan matériel, une gaieté superficielle et mondaine qui n'est pas une vraie bonheur et gaieté, la louange flatteuse des hommes, ce sont toutes des choses qui pourraient être un danger pour notre bien-être spirituel et en nous éloignant d'une dépendance de Dieu, d'une communion avec Dieu. Et ils n'apportent pas le contentement spirituel. Mais heureusement, il y a autre chose dans ce passage. Et je voudrais aborder maintenant brièvement ce que c'est le contentement spirituel selon Jésus. Et sur versets 20 à 23. En premier, Jésus dit la pauvreté. Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Vous avez un héritage, le royaume de Dieu. Si vous êtes pauvre maintenant, ne vous tracassez pas, le royaume de Dieu est à vous. Attention, la pauvreté en elle-même n'est pas une bénédiction. Le fait d'être pauvre n'est pas une bénédiction. Elle peut même être une malédiction, la pauvreté. Et bon nombre d'organisations chrétiennes aident à éradiquer la pauvreté dans le monde. Envoient des gens pour lutter. Et peut-être certains d'entre vous donc assistent à ces organisations qui aident les gens qui sont dans la pauvreté. La pauvreté n'est pas un bien en soi. Le pauvre dans le sens biblique est surtout celui qui dépend complètement de Dieu. Dans le passage parallèle dans Matthieu 5, Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit », c'est-à-dire ceux qui sont conscients de leurs besoins spirituels et de leur dépendance totale de Dieu. « Heureux ceux-là qui disent « En moi-même, non, je ne suis pas, je n'arrive pas à la hauteur, mais avec Dieu, oui ». Alors, ce sont des gens humbles qui comprennent leur état spirituel et qui ont appris à dépendre de Dieu. Ils sont pauvres dans leur situation spirituelle et cette pauvreté les a encouragés à compter sur Dieu. Jésus parle ici surtout aux disciples, c'est ce qu'il dit au début de ce chapitre, verset 20. Il parle surtout aux disciples. Ils étaient pauvres, ces disciples, mais heureux parce qu'ils savaient que leur seul, le véritable et leur durable ressource se trouvait en Dieu. Ils étaient riches dans ce sens-là. Mais Jésus parle aussi de la disette et de la faim. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Là encore, Jésus ne parle pas du sens premier de la disette ou de la faim, sur le plan matériel. Nous avons un indice en lisant le passage parallèle dans Matthieu qui ajoute « Ceux qui ont faim et soif de la justice. » C'est intéressant, Matthieu complète ce que nous lisons dans Luc. C'est l'occasion de compter sur Dieu pour tout. Dans Matthieu 6, versets 31, 32 et 33, Jésus complète cet enseignement dans Luc 6. « Ne vous inquiétez donc pas en disant, que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus ? Car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. » Oui, c'est l'occasion de compter sur Dieu pour tout. Et Dieu sait ce dont nous avons besoin. Faim et soif de la justice. Quand il dit justice, il veut dire être déclaré juste devant Dieu. Il ne parle pas de la justice dispensée par les tribunaux, mais le fait d'être juste devant Dieu, déclaré juste devant lui. Ensuite, au verset 21, deuxième partie du verset, il dit « Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie ». Jésus parle de l'épreuve et de la tristesse. Je pense qu'il n'y a sans doute pas une seule personne ici qui n'a pas connu l'épreuve ou la détresse, certains plus que d'autres. Là encore, Jésus ne recommande pas de chercher l'épreuve ou de vivre dans la détresse. On sait très bien qu'un chrétien triste est un triste chrétien. Or, il y a des chrétiens, autrefois, il fallait jamais rire. Je ne le nommerai pas, mais il y a un institut biblique en France, c'est pas près d'ici au fait, où dans les années 60, au repas, les garçons et les filles mangeaient à part au fait, il était interdit de rire. ou de sourire. Il fallait cultiver le sourire intérieur. Je vous assure, je ne serais pas resté très longtemps dans cette école à l'époque, mais les choses ont changé, parce qu'on n'a pas compris ce que c'est le rire. Et il y a certaines personnes qui veulent afficher un visage tellement triste. Et est-ce que ces gens attirent d'autres au Seigneur? Je ne vois pas comment. Jésus parle plutôt de ceux qui sont sensibles au mal. Ils sont tristes parce qu'il y a le mal dans le monde et ils y sont sensibles. Ils sont sensibles au péché et surtout leur péché. Ils sont attristés par la révolte du monde contre Dieu et la souffrance qui en résulte. Oui, le monde va à la perte. Et il y a des personnes qui voudraient mettre la faute de cela sur le compte de Dieu. Mais vous savez, Dieu nous a laissés libres de choisir. On n'est pas obligé de faire le mal, mais on subit le mal que d'autres nous font. Et finalement, Jésus parle de la souffrance. Mais de la souffrance à cause de Jésus, au verset 22. « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront, rejetteront votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez de joie, etc. » Attention, on ne doit ni s'infliger soi-même la souffrance, ni la chercher par un manque de sagesse. Il y a des gens qui disent, oh, il faut que je souffre pour Jésus, il faut que je cherche à souffrir pour lui. Non, écoutez, vous allez avoir des souffrances sans les chercher. Il y a des personnes qui ont cette mentalité, il faut que je souffre, je ne me moque de personne. Mais il faut quand même réaliser que Dieu donne la souffrance aux uns et aux autres, à certains plus qu'à d'autres. Mais il ne faut pas s'infliger soi-même la souffrance, ni la chercher par un manque de sagesse, ni par un souci irréfléchi de témoigner pour le Seigneur en souffrant. Dieu ne nous appelle pas à être masochistes. Il est faux de penser qu'en s'affligeant physiquement ou moralement, on sera plus près de Dieu, ou encore plus qu'on gagnerait ainsi le ciel. Il y a quelques siècles, on pensait cela. Rappelez-vous Martin Luther, il s'est infligé toutes sortes de punitions physiques. Et pourquoi? Pour souffrir. Parce qu'il croyait faussement que s'il souffrait dans son corps, par les souffrances qu'il s'affligeait lui-même, il serait plus près de Dieu. Et vous savez que Martin Luther n'avait jamais eu la paix en suivant ce genre de comportement. Qu'est-ce qui a donné la paix à Martin Luther? C'était en étudiant Romains chapitre 1er pour préparer un cours de théologie dont il était professeur à l'université de Wittenberg qu'il a trouvé le verset « Le juste vivra par la foi. » Celui qui est déclaré juste par Dieu vivra par la foi. Pas besoin de s'affliger des punitions pour souffrir. Non, ce n'est pas la manière de Dieu. En terminant, on pourrait se poser une question. Pourquoi est-ce que Jésus nous a donné cet enseignement qui semble si étrange au premier regard? Je voudrais proposer deux suggestions pour cet enseignement. D'abord, parce que la richesse, l'aisance, la satisfaction mondaine ou la louange des hommes, tant recherchée par les gens, peuvent être un piège et nous éloigner de Dieu. Pourquoi a-t-on tant de difficultés de nos jours à voir les gens se tourner vers le Seigneur? Alors, malgré la grogne, malgré les grèves, malgré tout ce qui ne va pas dans la société, je voudrais vous dire un petit secret. La France ne va pas si mal que cela. Il y a des individus en France qui ont des problèmes. Mais en tant que pays, beaucoup de gens dans ce monde, beaucoup, voudraient venir habiter en France parce qu'il y a des avantages ici qu'on trouve rarement ailleurs. Donc, si vous êtes habitué à la grogne, je vous encourage à arrêter la grogne et à compter sur Dieu. Bon, mais ça, c'est bon. Excusez-moi, je ne veux pas, donc... Non, tant de gens, ils ont cette sécurité matérielle. Bon, on regarde à la télévision, il y a quoi, 55 millions de livrets A en France. Bah, et encore, il y a 5 ou 6 fois plus d'argent dans les assurances-vie. Alors, ça ne peut pas aller si mal que ça, quand même. Et les gens ne se tournent pas vers le Seigneur parce que c'est ça leur sécurité. Ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils ont tout, déjà, malgré la grogne. Mais ça donne un faux sentiment de sécurité. Ce n'est pas une sécurité pour l'âme. Ce n'est pas une sécurité pour la vie à venir. Ils ne croient ne pas avoir besoin de Dieu. Et c'est exactement le mensonge que Satan voudrait qu'ils croient. Une deuxième raison pour cet enseignement que Jésus a donné est que Jésus sait que la souffrance et l'épreuve nous rendent plus sensibles et attentifs à la voix de Dieu. La souffrance et l'épreuve sont pour notre bien quand elles viennent du Seigneur. Si vous souffrez pour votre propre bêtise, bon, ben le Seigneur peut s'en servir, bien sûr. Mais il y a des épreuves qui viennent, qui sont permises par le Seigneur. Et c'est là où nous apprenons mieux à aller de l'avant avec Dieu. Dans son amour, Dieu cherche à nous accorder un vrai contentement. Un contentement qui n'est pas sujet aux circonstances de notre vie. Ce contentement commence par notre relation avec lui et ensuite il rejaillit sur tout dans notre vie. Notre famille, notre travail ou l'école, nos relations, nos loisirs et notre vie d'église, bien sûr. Sur tout dans notre vie, ça rejaillit. Il n'y a pas un domaine de votre vie qui n'est pas touché par votre contentement si votre contentement se trouve dans le Seigneur. Et croyez-moi, le contentement authentique se voit par un monde blasé qui pense avoir trouvé toutes les réponses à la vie. C'est un témoignage fort pour le Seigneur. Alors, suivre les pistes de Jésus pour vivre heureux, c'est se mettre à l'école de Jésus et avec son aide et par sa grâce, vivre un véritable contentement spirituel. Parce que Jésus remplit notre vie. Et quand Jésus remplit notre vie, il ne laisse pas sa divinité à la porte de notre vie, parce qu'en lui habite toute la plénitude de la divinité, et vous avez tout pleinement en lui. Amen.